Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Aujourd'hui nous allons parler de la musique chrétienne, du chant grégorien et j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans le studio Bruno Moisan qui est agrégé de musique. Il est docteur en musicologie et il est bien connu des Chartrains car il enseigne au lycée Marceau de Chartres, mais il enseigne aussi à Sciences Po à Paris. Et on va aborder donc le chant grégorien, soulignant que dès ses origines, l'Église a reconnu une place très importante à la musique, au chant, dans la liturgie. Et le chant grégorien qui est notre sujet aujourd'hui est une vaste matière où se mêlent différentes notions historiques, liturgique, musical et spirituel, et qui mieux que Bruno Moisan pourrait nous expliquer justement la relation entre ces formes et modes d'expression de la musique chrétienne et l'histoire des institutions qui influent aussi sur la musique. Donc, bienvenue dans notre émission, Bruno Moisan. Alors, on va peut-être commencer tout de suite avec peut-être l'histoire du chant grégorien. D'ailleurs, qui a donné le nom au chant grégorien?
Eh bien, alors on attribue donc le nom de chant grégorien donc au pape Grégoire le Grand, qui en fait ne l'a pas inventé, mais a finalement, dans une sorte de d'attitude typique finalement de la papauté, mis un peu de l'ordre dans la boutique et a un petit peu, j'allais dire, fait un tri et un classement dans finalement les floraisons plus ou moins à la fois spontanées et peut-être même anarchiques de répertoires qui ont eu lieu dans les premiers siècles de la vie de l'Église. Alors, bon, d'abord le chant grégorien tel que nous le connaissons aujourd'hui, et il faut quand même le souligner, d'abord le fruit d'une véritable résurrection, d'une véritable restauration qui a été faite au XIXe siècle. Les compositeurs romantiques, comme Liszt par exemple, ont été extrêmement critiques par rapport à la façon dont l'Église, durant les siècles, j'allais dire, de la monarchie absolue, avait mis la musique à l'Église à l'époque baroque, avec, il faut bien dire, quand même une certaine perte d'intériorité et de spiritualité. Je ne veux pas dire que les messes de Mozart ne sont pas belles, je ne veux pas dire que les sonates d'Église de Corelli ne sont pas belles et ne peuvent pas aider à la prière, mais incontestablement, quand après une élévation, par exemple, ou après une lecture, on entend une très belle pièce pour deux violons obligés et basse continue, on peut comprendre qu'au XIXe siècle, avec le romantisme qui redécouvre les valeurs de l'intériorité, qui aussi essaye de sortir du siècle et d'une certaine forme de profane et de sécularisation par aussi une sorte de Moyen-Âge un peu mythique, on a eu vraiment le souci de revenir à un autre répertoire liturgique. Et ce combat pour changer le répertoire liturgique et lui donner une forme d'intériorité, tout simplement, d'élévation de l'âme, et d'aider à la prière, a été, en fait, a eu comme point d'aboutissement le fameux motu proprio de 1903 de Pie X, qui demande donc qui demande à l'Église que le chant grégorien, tel qu'il est redécouvert et restabilisé d'une certaine manière, notamment par les moines de Solesmes, devient le chant de l'Église catholique romaine. Et puis, bon, après, on peut dire que ça a duré à peu près 70 ans, et puis après est arrivée la réforme liturgique de Vatican II, qui a à nouveau, j'allais dire, rebrassé les cartes, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il faut être conscient quand même que l'image que nous avons au XXe siècle du chant grégorien n'est pas celle du chant grégorien des premiers siècles. Ensuite, une deuxième chose qu'il faut peut-être préciser, c'est que le Moyen-Âge, c'est très long. C'est très long. Ça commence avec le pauvre assassinat du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, au 5e siècle de mémoire. Et puis, ça se termine quand même, dit-on, paraît-il, en 1492. Donc c'est quand même extrêmement long. Donc on ne peut pas, d'une part en une demi-heure, et d'autre part, simplement conceptuellement, résumer le chant grégorien, ces 1000 années d'histoire, d'autant plus que l'éloignement historique fait aussi que, évidemment, l'accès aux sources est aussi par définition lacunaire. Enfin, les sources sur 1000 années d'histoire médiévale sont quand même beaucoup plus sporadiques, lacunaires, difficiles à interpréter que ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, sachant qu'aujourd'hui, peut-être le problème serait que trop d'informations tuent l'information. Enfin, ça, c'est une autre question. Alors, Le chant grégorien des premiers siècles, comment l'aborder rapidement et, j'allais dire, pédagogiquement? D'abord, il y a une chose dont il faut être conscient, c'est que il prend sa source, il n'a pas été inventé comme ça, il prend sa source dans la culture méditerranéenne. Alors, on dispose de documents tout à fait simples et amusants à, comment dirais-je, pour prendre conscience de ça, tout simplement dans les confessions de Saint-Augustin, par exemple. Dans les confessions de Saint-Augustin, on a des sources, une source tout à fait passionnante où Saint-Augustin, en même temps qu'il réfléchit à sa conversion, réfléchit à son rapport à la musique et nous donne évidemment quelques renseignements. Alors il dit, par exemple, « Combien versais-je de pleurs par la violente émotion que je ressentais lorsque j'entendais dans votre église chanter des hymnes et des cantiques à votre louange. En même temps que ces sons si doux et si agréables frappaient mes oreilles, votre vérité se coulait par eux dans mon cœur. Elle excitait dans moi des mouvements d'une dévotion extraordinaire, elle me tirait des larmes des yeux et me faisait trouver du soulagement et des délices jusqu'à que dans ses larmes. » Et puis un petit peu plus loin, il dit « Il n'y a pas si longtemps que cette coutume qui console et qui élève les esprits à Dieu était en usage dans l'église de Milan où les fidèles la pratiquaient avec grande affection et joignaient leur cœur à leur voix dans ces cinq cantiques. On ordonna alors qu'on chanterait des hymnes et des psaumes selon l'usage de l'église d'Orient. Depuis ce jour, cette coutume continue de s'observer, non seulement dans l'église de Milan, mais dans plusieurs autres, et presque dans toutes les églises du monde qui sont portées à imiter une si sainte instruction. » Donc, la base du chant grégorien est au départ, j'allais dire, un fond oriental. Alors, qu'est-ce que signifie le fond oriental et méditerranéen de la musique? Ça signifie d'abord une origine quand même grecque. Bon, même si les Romains ont dominé militairement... et administrativement, parce que c'était de grands juristes, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain dans sa globalité à un moment de son histoire, les Romains étaient quand même très complexés par rapport aux Grecs. J'allais dire, en faisant un parallélisme peut-être extrêmement outrancier, que les Romains avaient vis-à-vis des Grecs ce que les Américains ont eu pendant un certain temps vis-à-vis de la vieille Europe. C'est-à-dire, évidemment, ils avaient conscience de la dominer sur le plan des rapports de pouvoir, mais ils sentaient bien qu'ils étaient peut-être moins cultivés, moins raffinés, que leur passé était moins prestigieux, etc. Mais il s'est passé exactement la même chose. Dans les relations entre le monde grec et le monde romain, dans l'Antiquité tardive, c'est-à-dire que, en fait, bon, les Romains ont assimilé la musique des Grecs et les grands théoriciens de la musique antique sont tous des théoriciens grecs. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord une musique qui est monodique. C'est-à-dire c'est une musique à une seule voix. D'ailleurs, on le constate encore aujourd'hui dans la monodie arabe, par exemple, ou dans la musique grecque liturgique, nous avons encore une musique à une seule voix. Et le chant grégorien occidental sera aussi une musique à une seule voix. Alors, ça signifie aussi que c'est une musique qu'on appelle, c'est un terme un petit peu technique, mais qu'on appelle une musique modale. Alors, qu'est-ce qu'une musique modale? C'est une musique qui est composée sur des échelles, des ensembles de notes, dont les relations entre les notes entre elles vont donner leurs caractéristiques. Alors, pour comprendre ce fond ancien-antique, je vous propose de ne pas écouter de la musique religieuse, mais d'écouter de la musique païenne, de la musique de l'Antiquité grecque, telle qu'elle est restituée comme on peut par les musicologues en fonction des quelques sources qui nous restent, et d'écouter donc le premier hymne delphique à Apollon, et qui est, il me semble de mémoire, du 1er ou du 2e siècle avant Jésus-Christ.
Chers amis auditeurs de Radio Conseil, nous voilà dans le studio avec Bruno Moisan, musicologue, docteur en musique, agrégé de musique, qui nous parle du chant grégorien, de ses racines dans la musique païenne, puisque nous venons d'écouter donc une pièce grecque. Bruno Moisan, vous enseignez aussi à l'école de Chartres pour les arts, organisez cours d'histoire organisés par le Centre international de Vitrail. Donc les Chartrains ont la chance d'écouter aussi Bruno Moisan dans le cadre de cette école créée à Chartres. Alors, cher Bruno Moisan, je vous laisse tout de suite le microphone parce qu'il y a tellement de choses à dire.
Alors, donc, par ce petit extrait, on constate tout de suite ce qu'est la modalité. La modalité, c'est un ensemble de notes dont la mise en relation produit une véritable esthétique, un véritable, j'allais dire, un certain nombre de sentiments, et puis surtout organise la phrase musicale. Dans ce que l'on a entendu, on a quelque chose de tout à fait amusant. Je vais essayer de le rechanter, même maladroitement. Pam 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 pam. On a ici finalement deux intervalles caractéristiques. Un intervalle de tierce d'abord, pim pam pam. Et puis ensuite, ce que l'on appellera plus tard la carte augmentée. Pim, pam, 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 qui est un intervalle très caractéristique. Et puis ensuite, après, la carte augmentée. Pim, pam, 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 pam. Là, une relation de demi-ton montant. Et c'est cette relation entre les différents intervalles qui, associée au texte, évidemment, produit la caractéristique de la musique. Et même les sentiments, ce qu'on a appelé à un moment l'éthos des modes. C'est-à-dire le fait que le texte peut être mis en relation avec les caractéristiques strictement musicales de l'échelle employée. Alors, on peut avoir aussi, par exemple, si vous utilisez une autre échelle comme un mode demi, vous aurez à ce moment-là un autre fonctionnement musical et un autre fonctionnement expressif. Si je prends par exemple le Pange Lingua grégorien, Pange Lingua gloriosi corporis mysterium, ti la 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 la, etc. Eh bien, on a ici un mode demi. Pam 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 pam, Pange Lingua gloriosi ta da 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 la la la, pam 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 pam. Holé! Bon, évidemment, c'est pas la même chose. Mais si vous voulez, la caractéristique du mode demi, c'est qu'il commence d'abord par un demi-ton. Pim pam pam, et que c'est nécessairement après un mode forcément à ce moment-là qui aura une pente descendante. À l'inverse, la gamme majeure qui au départ était un mode, alors do ré mi fa sol la si do, gratte-moi la puce que j'ai dans le dos, et bien à ce moment-là forcément c'est un mode montant parce que le demi-ton arrive, si vous voulez, entre le troisième et le quatrième degré de l'échelle, et donc à ce moment-là le mode majeur va être un mode dynamique, exemple pam 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 pam. Donc ben le chant grégorien dans son mode de fonctionnement musical, c'est ça, c'est des échelles qui ont toutes des caractéristiques différentes et qui, à ce moment-là, dans leur mise en relation avec le texte, vont créer des formes et vont aussi créer, j'allais dire, des sentiments et des états d'âme. Et d'ailleurs, c'est ce que dit saint Augustin à un moment, lorsqu'il dit, il faudrait que je retrouve ma citation, alors... Voilà, car il me semble que quelquefois je défère, donc aux mélodies, hein, je change le texte, je l'adapte un petit peu, davantage que je ne devrais, sentant mon esprit plus ardemment touché de dévotion par ces saintes paroles, lorsqu'elles sont ainsi chantées que si elles ne l'étaient pas. Et j'éprouve que, par je ne sais quelle secrète sympathie, toutes les diverses passions de notre esprit ont du rapport avec les divers tons de la voix et du chant qui les excitent et les réveillent. C'est-à-dire que vous avez une relation entre les tons employés, alors ce qu'il appelle ton en fait dans cette traduction-là, c'est en fait les modes employés, et les passions de l'âme. Et c'est par cette relation entre l'échelle employée et les passions qu'évidemment le chant grégorien exprime et véhicule, donc à mon avis, donc le sens du texte. Voilà, en gros, voilà ce que l'on peut dire sur ce chant grégorien. Alors après, évidemment, il s'insère dans la liturgie. Alors je ne peux pas malheureusement faire un cours de liturgie parce que je n'ai pas le temps, mais il faut savoir que dans l'ordinaire de la messe, eh bien, vous avez le chant grégorien, il y a deux types de répertoires. Il y a le répertoire que l'on appelle le répertoire de l'ordinaire. Ce sont des pièces dont le texte et la musique ne changent pas. Par exemple, le Kyrie, tout simplement, Magnus, le Gloria, le Credo, la Agnus Dei, etc. Puis alors, les chants, donc, du propre sont en fait, d'une certaine manière, au départ, des cantiques qui aussi, en fait, ont pour base des psaumes, hein, c'est-à-dire l'introïte, l'introïte, le graduel de mémoire, l'alléluia, la communion
et l'offertoire.
Voilà, je les ai pas dit dans le bon ordre. Et donc ces pièces, le texte et la musique vont évidemment changer en fonction du jour de la liturgie employée. Et en même temps, vous avez des formes différentes, c'est-à-dire que les pièces de l'ordinaire sont des formes libres soumises au texte. La forme des autres pièces qui sont les pièces du propre est une forme, alors il y a des formes un peu différentes, mais elles peuvent se résumer sous la forme antienne, verset de psaume antienne. Alors, il paraît, moi je ne suis pas un spécialiste quand même de, j'allais dire, je ne suis pas un moine de Solem qui étudie le chant grégorien toute la journée, mais il paraît que dans les premiers temps de la liturgie, c'était le psaume entier qui était chanté. Puis avec le temps, évidemment, ça faisait des liturgies très longues, donc le psaume a été réduit à, en fait, l'antienne qui, elle, a une forme littéraire qui peut être écrite, qui n'est pas forcément tirée de la parole de Dieu, et par contre le verset de psaume qui en vient. Alors je vous propose d'écouter tout de suite une très belle psalmodie dont la caractéristique est d'être en latin et en grec. Alors, je prends ce que nous allons entendre est une reconstitution musicologique par un très grand musicologue qui s'appelle Marcel Pérez, et nous allons entendre une antienne et un psaume 22 tiré de la liturgie du Vendredi Saint dont la caractéristique est d'être en grec et en latin, parce que cela provient de la liturgie de la cathédrale de Bénévent, qui était donc sur la limite entre le monde latin et le monde grec. Et en même temps, je vous demande de faire attention à la façon de chanter. Vous allez avoir en grec la mode orientale du chant, avec des ornementations très fines, en dessous du demi-ton, ce qu'on appelle les infrachromatismes, et la partie latine, Marcel Pérez a très bien fait son travail, vous allez avoir un chant beaucoup plus, on pourrait dire aujourd'hui, brut de décoffrage, qui permettra de comprendre comment, d'ailleurs, après, je l'expliquerai ultérieurement, la polyphonie a pu s'inventer dans le monde occidental. Donc, cette antienne, proskinoumen, ton storon sou.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, Bruno Moisan, agrégé de musique, qui nous parle du chant grégorien et de ses racines.
Alors, cet extrait est intéressant parce qu'il nous montre très bien la tension qui existe dans le chant grégorien lui-même entre, j'allais dire, des formes qui sont musicales avec des logiques musicales, même s'il y a un texte, qui est le cas de l'antienne par exemple, et j'allais dire une conception plus simple, peut-être plus utilitariste, qui est finalement la psalmodie. Dans la psalmodie, c'est véritablement le texte qui est au centre, c'est une méditation sur les psaumes, et dans l'antienne, on laisse beaucoup plus de place à l'inventivité musicale. Alors, on a aussi, dans ce partage esthétique, on a aussi, finalement, aussi un partage social. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, dans le chant grégorien des premiers siècles, un personnage essentiel, le chantre, qui donc avec la part d'improvisation qui lui est dédiée, qui est celui qui doit, guider aussi un petit peu l'assemblée, mais qui est celui, le professionnel de la musique, enfin professionnel avec un anachronisme évident. Et puis alors il y a autrement, le chant de l'assemblée. Et en fait, ce qui va caractériser cette esthétique-là, c'est que le langage musical du répertoire dévoué au chantre et le langage musical du répertoire dévoué à l'assemblée est le même. C'est un langage modal du fond méditerranéen dont j'ai parlé tout à l'heure. En revanche, le degré de technicité est différent. Et on sait d'ailleurs très bien que l'Église aura toujours, dans les premiers siècles, le clergé essaiera toujours de discipliner l'inventivité absolument proliférante des chantres associés, il faut bien le reconnaître aussi, on a beau être dévot, on n'en est pas moins homme aussi, à une certaine forme de narcissisme. Voilà. Mais en tout cas, on doit à ça, évidemment, des floraisons musicales absolument magnifiques. Alors, bon, l'évolution du chant grégorien tout au long du Moyen-Âge, je ne peux pas la résumer, on peut seulement la résumer en disant que la négociation qui existe dans le chant grégorien entre les éléments strictement musicaux, à la fois le langage modal et en même temps l'ornementation, et la mise en valeur du texte va, j'allais dire, se complexifier, se perfectionner jusqu'à ces pièces absolument extraordinaires du Moyen-Âge, du XIe, XIIe siècle, etc., qui est le chant grégorien aussi, qui est un petit peu resté dans nos mémoires. Et peut-être, je vous propose d'écouter, avant de passer à autre chose et d'ouvrir finalement la prochaine émission sur la polyphonie, d'écouter deux extraits magnifiques de laisser la place à la musique, c'est-à-dire d'écouter deux extraits magnifiques de la messe du jour de Noël chantée par les moines de Solesmes. Alors je présente donc ces deux extraits. Alors nous avons à chaque fois une structure de type antienne, verset de psaume antienne. Et alors je vais vous lire le premier, le Puernatus est in Bethléem. Je vais vous lire le texte, il est tellement beau. Alors, vous allez avoir dans ce chant-là ce qu'on appelle l'ornementation mélismatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ornementation? Qu'est-ce qu'on appelle un mélisme? Forcément, le chant grégorien, les chantres, quand ils ont improvisé les premières pièces, parce qu'on est dans des traditions orales, la fixation par l'écrit sera quand même assez postérieure, qu'est-ce qui se passe? Il a le texte latin, il le connaît par cœur. Et ce texte latin, qu'est-ce qu'il caractérise? Premièrement, il y a des mots importants. Il y a des mots qui sont plus importants que l'autre. Et il y a surtout des mots aussi qui vont plus solliciter le chantre que d'autres. Évidemment, le chant grégorien, c'est une mise en valeur du texte. Il faut aussi préciser d'ailleurs que, même encore, j'allais dire, dans la cantillation juive d'aujourd'hui, etc., le chant grégorien n'est pas considéré comme étant de la musique. Il est simplement une efflorescence du texte, sachant que la musique ajoute une dimension émotionnelle supplémentaire et lui donne, en quelque sorte, donne au texte une forme de troisième dimension. Mais ça n'est pas de la musique au sens où on entend aujourd'hui la musique comme étant un art, objet de contemplation esthétique, etc. Non, pas du tout. Le concept d'esthétique, d'art pour l'art, est absolument inopérant pour toute cette culture-là. On est dans une musique fonctionnelle, ce qui n'empêche pas qu'on essaye de faire en sorte qu'elle soit belle et qu'elle réponde à des canons, etc. Donc le chantre est sollicité par un certain nombre de mots du texte. Et il est aussi sollicité par l'accentuation du texte. Et il est aussi sollicité par la structure du texte, les groupes de mots, ce qu'on appelle les structures morphosyntaxiques, c'est-à-dire les groupes de mots, la ponctuation, etc. Et c'est tout ça qui va fabriquer donc le chant grégorien. Alors, je vous propose d'écouter donc ce Puernatus est nobis, et filius datus est nobis, cuius imperium superum erum, etc. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule, et on lui donnera pour nom ange du grand conseil. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles, et on voit bien évidemment dans cette pièce-là, les chantres vont se donner à cœur joie pour faire d'immenses ornementations sur des syllabes qui correspondent aux mots, évidemment, les plus importants, et qui sont la plupart du temps les syllabes aussi accentuées du texte latin. Donc l'antienne est reprise après le verset de psaume. Bon là, on a fait quelque chose de barbare, c'est-à-dire qu'on l'a un petit peu coupé, malheureusement, pour des raisons de temps. Alors, le soliste a chanté le verset de psaume. Et donc ce verset de psaume, est, à la manière psalmodique, il est, eh bien, j'allais dire, beaucoup moins ornementé que ne l'est l'antienne, mais ça n'empêche que dans certaines autres pièces, comme celle qu'on va écouter tout de suite, eh bien, le verset de psaume est pratiquement autant ornementé que le reste, et quand on analyse la structure de la pièce, on retrouve la psalmodie sous les ornementations absolument proliférantes de la pièce. Alors, nous allons écouter maintenant eh bien, une autre pièce qui est l'extraordinaire Viderunt omnes fines terrae, mais il faut véritablement faire attention au tout début de la pièce, aux premières syllabes, parce que Viderunt omnes, nous avons ici une antienne en mode de fa, avec tout simplement ce qui sera le début de l'accord parfait. Alors je vous dis le texte, quand même, il faut quand même que je dise le texte, Viderunt omnes fines terrae, salutare dei nostri, Jubilate Deo Omnistera, tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu, acclame Dieu terre entière. Alors ça c'est l'antienne, le verset de psaume, le Seigneur a fait connaître son salut aux yeux de toutes les nations, il a révélé sa justice.
Cher Bruno Moisan, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, merci beaucoup. Vous nous avez révélé le chant grégorien. C'est dommage que l'émission se termine déjà sur Radio Grand Ciel. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour parler de la polyphonie. Au revoir, chers auditeurs.
Au revoir.
Steve.